Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Rayon, 93 FM.
Ça, c'est un extrait de « Trois fois à la fin du monde » de Sophie Divry. Quelque chose comme une force. Le soleil s'attarde, se pose plus longtemps sur la terre, la réchauffe. Une force qui pénètre le sol. Alors du plus caché de la terre, du plus profond, du plus humble, des millions de graines lancent un cri muet de désir. Toutes, sous l'œil endormi, écartent la pellicule qui les tenait resserrées et déploient en même temps leur volonté opiniâtre de crever le sol. Les rayons de soleil répondent à cet appel, tirent et attirent chacune de leurs tiges, les scindent en minuscules langues, en lianes, en feuilles claires, jusqu'à ce qu'elles se répandent enfin à la surface du sol. Il suffit de quelques jours, après la pluie. Une masse de verdure semble être sortie de la terre ou tombée du ciel. C'est d'abord, au pied des arbres chauves, une pluie de flocons verts. Partout, comme une neige qui chatouille avec des fleurs minuscules, ravissant les chevreuils, nourrissant les yeux d'une couleur qu'on a envie de manger. La laure chante en y passant. Elle reçoit l'eau par giboulée, l'eau d'en haut, l'eau d'ici, l'eau d'hier, d'aujourd'hui. Le soleil s'affirme encore, la sève chauffe. La sève qui attendait, tapie, dans un élan extraordinaire, remonte contre la gravité et fend la masse noire des troncs. Ces troncs qui ont survécu, troncs de travers, avec leurs racines brisées, leurs formes tordues, leurs branches raides, la sève écarte leurs veines de sa chaleur, elle remonte, irrigue et pousse le bourgeon, ouvre les formes nouvelles. Elle pousse plus fort encore jusqu'à ce que le bourgeon craque et se déplie. Les papillons sortent en bouquets de graminées, les graminées qui ont explosé de toutes leurs tiges. Quelque chose de puissant. Les lianes courant contre le muret cognent désormais au carreau. Des bruits sourds tambourinent contre les arbres, irréguliers. Il y a du vert partout, des griffes, des cris de bêtes, des papillons. Ces feuilles, ces lianes, ces tiges, elles se tendent encore, plus longues. C'est un combat entre les flocons verts et ces feuilles avides, combat pour appâter le soleil, le garder rien que pour soi. La terre gonfle, double, triple, se recouvre d'épis, de buissons. Les graines crevant le sol s'ouvrent comme autant de bouches molles tirant leur langue rose. Les abeilles furieuses se jettent sur ces langues et les oiseaux se jettent sur les insectes. Des branches sont attrapées par des becs jusqu'à des nids, des mousses prélevées, les buissons visités. Les griffes creusent, les cuirs se frottent. Des centaines d'ailes cherchent partout leur place. Dès les premiers rayons, les oiseaux chantent mélodie, harangues, pour aimer, pour nicher, puisque c'est l'heure de s'aimer. Ils sont sortis des branches, ils se cherchent, bâtissent, s'entrecroisent et entreconstruisent furieusement. Une odeur d'aventure et de grands espaces a recouvert la cause. Des bouches, coquelicées, embrassent un insecte et meurent. Les arbres voient repousser leurs chevelures de feuilles, une par une. C'est un gonflement encore, une odeur qui rend les insectes furieux, une saveur de miel et de sucre. Et les hirondelles sifflent, elles ont traversé des kilomètres, et en piqué elles chutent vers Saint-Noué. Elles rasent les abreuvoirs, elles cherchent de la boue pour leur nid, y mettent leurs œufs, y refaire la vie. Quelque chose triomphe. Quelque chose a gagné contre le passé, contre le froid, contre l'obscur, et cette force de lumière dans sa chaleur se fait végétale, innombrable, universelle. La végétation cache les chemins, couvre le bitume, assaille les murs, enfuit tout ce qui était mort et qui ne peut se mesurer à elle. Quelque chose de si puissant que les feuilles semblent naître au milieu de l'air, au bout des branches invisibles. Le mouton se prend à courir comme un agneau. Il sent la terre qui sent le soleil. Il tourne dans sa parcelle. Il cogne de la tête le râtelier. La chatte est enfouie au cœur des graminées, la patte curieuse, les moustaches sensibles. Une odeur la séduit. Immobile il y a une seconde, voilà qu'elle se précipite sur une abeille. Deux oreilles dépassent du pré. La chatte mâche l'herbe, se roule au sol, cherchant à rejoindre ce grand quelque chose qui tous les agite. Mais soudain elle se redresse et court vers une autre forme. Au milieu des ronces, c'est une autre vie encore. L'homme marche, suivant les impulsions nerveuses, suivant sans rien décider le mouvement des nerfs et des os et des muscles qui fonctionnent ensemble pour le tenir debout, éviter un obstacle, remettre un outil sur l'épaule. Et ça respire, ça tient debout plus ferme, vaillant, vivant, comme si le cerveau ne faisait que répartir des impulsions et des commandes d'une vie parmi d'autres dans ce printemps. L'homme s'approche d'une barrière, puis d'une grange, traverse une cour, franchit une porte.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien dans l'éclat des noctules sur 93 FM.
Bienvenue à toutes et à tous.
Les champs reverdissent, les lézards sortent à nouveau, les volets des résidences secondaires fermés depuis des mois réouvrent. C'est le printemps.
Oui. Et aussi les marmottes. Les marmottes sont sorties de leur hibernation.
Oh là là, on espère qu'il ne va pas y avoir une nouvelle vague de froid parce que sinon... Et alors tout ça, tout ce printemps là qui arrive, ce pré-printemps,
enfin ce pré-printemps, parce qu'il est quand même tôt pour du printemps et que c'est pas qu'une bonne nouvelle. Et que même s'il y a cette espèce de joie de la sève qui monte, ben c'est aussi le réchauffement climatique, l'hiver qui a été ultra sec, l'été on sait pas ce que ça va donner. S'il reneige dessus, ça risque de défoncer les bourgeons, enfin c'est pas que la fête. On sait bien. Mais la sève monte et ça fait quand même un truc de joie. Alors,
ça nous a donné envie de faire une émission lecture. Et on voulait faire une émission où il y ait plein de voix différentes. Des voix de noctules, mais pas que. Et voilà, on est vraiment ravis de les accueillir dans cette émission.
Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont envoyé des textes. On n'a pas pu tout mettre.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de cette émission, beaucoup de propositions et qu'elles étaient toutes géniales. Mais du coup, ça fera d'autres émissions lecture à d'autres moments.
On les a gardées pour les prochaines fois, quoi.
C'est ça.
Il y a des textes théoriques.
Des textes poétiques. Des textes un peu vénères.
Mm-hmm. Des textes qui sont lus par les personnes qui ont écrit ces
oui.
textes-là. Des gros cadeaux.
Bref, une émission aux petits oignons, quoi. Et eh ben, bonne écoute.
Et on va commencer par écouter un texte de Roux et qui sera lu par Roux.
Je parle depuis le désir de printemps. Lettre à mon corps. À toi, mon corps, qui vit les montagnes russes, qui se fait brinque-baller de ville en ville. Toi, qui porte le poids des mondes. À toi, mon corps à corps, qui bloque et rebloque et re-rebloque l'imbago. Tu fais cela pour me dire stop, 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 arrête, arrête, juste, arrête. À toi que je connais depuis ma tendre vie, à toi qui frémis, qui désire et qui rit, à toi. Je dois dire chapeau, chapeau le corps, chapeau d'avoir donné autant, d'avoir senti autant, de l'avoir dit autant. Et d'avoir continué autant de fois que tu l'as pu le corps, mon corps, d'avoir fait l'amour autant, d'avoir été lentement plein de fois, d'avoir été trop vite parfois, de tous ces va-et-vient biscornus. Tu m'as touché mon corps, tu m'as réconforté, tu m'as fait chalouper mon bassin. Sur la musique, tu m'as fait chalouper mon bassin. Oh, chalouper, j'adore ce mot. Tu m'as fait vivre tout. Tu m'as fait vivre tout, mes émois, le corps. Et c'était grand et c'était goûtu. Et c'était grand et c'était goûtu, mon corps. Et je t'aime. T'es une grande folle. T'es un grand fou, mon corps, quand tu t'es autorisé à vivre le corps. Et pour tous ces instants-là, et ceux où t'es super sage, et ceux où t'es super passage, bah je voulais te dire que je t'aime bordellement passionnément et que je te le dis jamais. sans toi, rien n'aurait été possible. Rien n'aurait été aussi goûtu, rien, mais rien n'aurait pu être si vivant. Et moi, je haine mon corps parce que c'est la séparation. Mais putain, mais je t'aime le corps, en fait. Alors continue le corps. Continue mon corps d'avoir mal pour me guérir. Continue de me faire souffrir. Allez, vas-y, juste. Mais promets-moi que je vais guérir. Alors continue le corps d'avoir chaud, d'avoir froid. Continue de me livrer tous ces messages aussi précieux que je continue de pas écouter, que j'espère un jour pouvoir entendre. Continue de me guider. Je t'écoute là. Je suis là avec toi. Et ça, c'est le continuum de notre histoire d'amour, le corps. Je t'en ai fait baver, putain, je t'en ai fait baver. Mais tous les jours, là, dans le speed, à jamais t'écouter, à prendre la route, à braver tous les interdits que tu me donnes, à te dire je m'en fous de toute manière, je vais crever. Putain, le corps, je t'en ai fait baver. Je sais. Tous les médicaments, les trucs de crise qui auraient pu être pris à temps, mais non, la crise, c'est pour moi. Alors pardon, le corps. Pardon de te mettre en crise. Mais je crois que l'amour, c'est aussi ça. Alors voilà, je te dis, le corps, reste en mouvement. Je te lâchais pas, si tu me lâches pas. Oh.
C'était Synergie
maintenant,
de Tash Sultana.
On va écouter une piste qui nous a été envoyée par une camarade de radio. D'une radio où j'étais avant et qui vient de fêter ses 20 ans. Rendez-vous compte, 20 ans de radio féministe. Et voilà, c'est une camarade donc de Déjanré qui est à Grenoble et qui nous a fait l'honneur d'un enregistrement, même de plusieurs enregistrements. Là, on passera pas tout aujourd'hui. Voilà. Alice, on t'écoute.
Bonjour les Noctules. Merci pour cette invitation. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir partager les derniers livres que j'ai aimés, qui m'ont permis de découvrir des pans d'histoire, des pans d'imaginaire. J'en ai choisi deux, un essai et un roman, tous deux écrits par des lesbiennes, et je vous souhaite une bonne écoute. J'avais envie de vous présenter le livre « Femme » de Joanne Nessel. Il a été traduit récemment par Noémie Grunewald et Christine Lemoine. Joanne Nessel est une icône lesbienne. Née en 1940 dans une famille juive de la classe ouvrière du Bronx, elle a vécu son lesbianisme au grand jour, bien avant l'émergence du mouvement pour l'égalité des droits. Féministe et antiraciste, elle s'est engagée dans de nombreuses luttes de libération qui ont bouleversé le XXe siècle. En 1973, elle fonde les Lesbian Her Story Archives, le plus grand fonds d'archives lesbiens au monde. Porte-parole des désirs butch femme, Joanne Nessel s'est revendiquée femme et sexuelle à une époque où cela exposait à de virulentes controverses. Dans ce recueil à la fois théorique, fictionnel et érotique, elle défend la mémoire lesbienne féministe et explore les dynamiques et les attirances butch femme. Des voix de l'histoire lesbienne. Vivre sans histoire, c'est vivre comme un nourrisson, constamment ébahi et mis au défi par un monde étrange et sans nom. Dans ce type d'existence réside un émerveillement profond, une vitalité de curiosité et un sens de l'aventure que nous faisons bien d'alimenter tout au long de notre vie. Mais un peuple en lutte contre un monde qui l'a décrété obscène a besoin d'une base plus solide sous ses pieds. Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas accidentels, que notre culture s'est développée et a évolué au cours du temps, que comme d'autres, nous avons une histoire sociale composée de vies individuelles et de luttes collectives et de coutumes langagières, vestimentaires et comportementales. En bref, que nous avons l'histoire d'un peuple à raconter. Vivre avec une histoire, c'est non seulement vivre avec la mémoire de notre propre vie, mais aussi avec celle de la vie des autres, de gens que nous n'avons jamais rencontrés, mais dont les voix et les actions nous relient à notre existence collective. Il peut être plus difficile d'avoir une histoire que de ne pas en avoir. La réalité de la continuité, dans le temps, porte en elle ses lourds fardeaux. Nous, lesbiennes des années 1980, risquons de nous mettre en difficulté si nous agissons comme si les années 1950 ou les années 1920 n'avaient jamais existé. Grâce au travail d'historiens, d'historiennes gays et lesbiennes, ancrés dans la réalité concrète du mouvement, aussi bien aux États-Unis qu'à l'international, nous avons identifié des modèles à la fois dans notre oppression et dans notre réaction à celle-ci. Nous pouvons commencer à analyser ce qui a mal tourné et ce qui s'est bien passé. Nous sommes en mesure de consigner la naissance de nouvelles façons de faire et d'observer la disparition de celles du passé. L'histoire fait de nous des êtres solitaires, à la fois membres d'une communauté et seuls à voir venir les changements. Le fait d'avoir une histoire compliquera certainement les problématiques auxquelles nous serons confrontés, car les positions simplistes rendent rarement justice au passé. J'ai 42 ans en 1982 et je suis sortie du placard en 1958. J'ai déjà annoncé cela à de nombreuses reprises, mais c'est seulement maintenant que je commence à comprendre ma propre complexité historique. Aujourd'hui, alors que j'observe la communauté lesbienne et que je m'y engage, de nombreux échos résonnent dans ma tête. J'entends les voix d'autres époques qui m'enseignent d'importantes leçons. Je fais la fête, en même temps que je fais mon deuil. Je veux vous parler de ce que mon passé m'a appris et des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est la strate de ma mémoire qui me fait me sentir le plus seule. Le terme « homo » est considéré comme un mot masculin. On l'évacue tellement des énergies libératrices du féminisme lesbien que j'ai l'impression d'être une relique d'un autre temps rien qu'en l'utilisant. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de la sagesse de cette mémoire. J'ai besoin de me rappeler ce que c'était de marcher dans la rue en tant que jeune femme avec mon amant de butch. J'ai besoin de me rappeler ce que c'était de se battre pour un territoire sexuel à l'époque de Joseph McCarthy. J'ai besoin de me rappeler de l'humiliation que nous ressentions et du courage dont nous faisions preuve dans la file des toilettes. J'ai besoin de me rappeler des lumières rouges qui clignotaient pour nous avertir des visites de la police, du visage fermé des membres de la brigade des mœurs et des fourgons de police qui emmenaient mes amis. J'ai besoin de garder en vie la mémoire des femmes qui passaient en tant qu'hommes et de leurs épouses, la mémoire des lesbiennes qui, parce qu'elles ressemblaient à des hommes, étaient ridiculisées, frappées, enfermées, cachées. Ces femmes défiaient le genre à l'époque où seuls les déviants et déviantes remettaient en question sa fatalité. J'ai besoin de garder en vie la mémoire du fait que dans les années 1940, les médecins mesuraient le clitoris et les mamelons des lesbiennes pour démontrer notre étrangeté biologique. Lorsque des travestis et des transsexuels sont frappés par la police, comme Liel l'ont été au blues, cette histoire m'appelle à l'action et je ne peux m'en détourner. Mes racines se trouvent dans l'histoire d'un peuple que l'on appelait les bêtes de foire. En essayant de concevoir ma vie comme étant intégrée à une histoire, j'ai notamment appris que nous avons trouvé une forme de résistance adaptée à chaque type de répression que nous avons subie. Notre histoire est la chronique de notre vitalité, de notre passion, de notre ingéniosité et bien souvent de notre intégrité. Il nous faut désormais trouver un moyen d'honorer à la fois l'ancien et le nouveau. Il nous faut chercher à établir des liens plutôt que des jugements.
Histoire comme chronique de vitalité. Ouais, ça me plaît bien. Même si c'est pas toujours facile. L'histoire comme chronique de vitalité. Je propose qu'on écoute. C'est pas sans lien, je crois. Un texte de Pépé. Lu par Pépé.
Du coup, qu'est-ce que tu vas nous lire ?
Je pensais au premier texte d'un recueil de poésie que j'ai écrit.
Ouais.
Ça parle d'une amie à moi. Les cracheurs et l'anorexie. Pourquoi a-t-il posé sa main sur son épaule ? Elle était assise avec ses amis en terrasse. Cet inconnu était sur la rue. Avec son groupe, ils étaient prêts. Ils rigolaient. Lui était juste dans son dos. Tout en regardant ses potes, tout en leur souriant, il a dirigé sa main vers son épaule à elle et l'a posée. Un moment, puis l'a retirée. Comment ça se fait ? Pourquoi ce mec a posé cette main sur elle ? Il a donné forme au monstre qu'elle avait dans son dos et que personne ne lui connaissait. Très discrètement, ce soir-là, elle fut abattue. Elle a vécu encore, puis s'est tuée. Je sens les cracheurs qui traînent, et parfois, ils s'approchent. Ils nous connaissent les parties ciblées, le montrent et te crachent dessus. Les cracheurs existent. Ils ne sont pas toujours fatals. Il y a 6000 dori, protection. Écoute, sœur, on veille. On l'a vu. Maintenant, on sait. Je te vois dans ton corps qui attend, qui n'espère pas, mais attends. On sait après toi. On sent les autres. On les regarde. Alerte. Nous sommes alertes.
Écoute, sœur, on veille. Ouais. Ouais, des fois, on sait pas trop quoi faire d'autre. On veille, on prie, on espère, on fait gaffe. Et puis, des fois...
Alors, nous, on a choisi de lire un petit classique de Virginie Despentes, parce que quand même, on l'aime bien. C'est le dernier de Despentes qui s'appelle « Cher connard ». Et c'est...
Le tout début.
Le tout début du livre, mais c'est...
Un échange, une correspondance, un échange de textes écrits sur les réseaux.
Voilà. Eh ben, c'est parti.
Donc, moi, je vais lire « Oscar ». Chronique du désastre. Croiser Rebecca Latté dans Paris. Sont remontés à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Femme tour à tour dangereuse, vénéneuse, vulnérable, touchante ou héroïque. Combien de fois je suis tombée amoureux d'elle. Combien de photos d'elle dans combien d'appartements, au-dessus de combien de lits j'ai pu accrocher et qui m'ont fait rêver. Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couilles. Cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse et son personnage de femme sale, bruyante, la débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour jeunes féministes. L'internationale des pouilleuses a encore frappé. Niveau de surprise, zéro. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize de Biggie en boucle.
Rebecca, cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, 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 je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûre que tu as des enfants. Les mecs comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligés de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront, écrasés sous un camion, et que tu les regarderas agoniser, sans rien pouvoir faire, et que leurs yeux gicleront de leurs orbites, et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon.
C'est virulent. Je l'ai cherché. Ma seule excuse est que je n'avais pas pensé que vous me liriez. Ou peut-être que je l'espérais au fond. Mais sans y croire vraiment. Je suis désolée. J'ai effacé le post et les commentaires. Mais quand même, c'est virulent. D'abord, ça m'a choquée. Ensuite, j'avoue, ça m'a beaucoup fait rigoler. Je voudrais m'expliquer. J'étais assis à quelques tables de la vôtre, en terrasse, rue de Bretagne. Je n'ai pas osé vous parler, mais je vous ai regardé avec insistance. J'ai dû me sentir humiliée de réaliser que mon visage ne vous rappelait rien, et aussi de ma propre timidité. Sans quoi, jamais je n'aurais écrit sur vous des choses aussi abjectes. Ce que je voulais vous dire, ce jour-là, j'ignore si ça vous rappellera quelque chose, c'est que je suis le petit frère de Corinne, vous étiez amis dans les années 80. Jayak est un pseudonyme. On est la famille Jocard. On vivait au-dessus du square Maurice Barrès. Vous, je me souviens, vous étiez de la Cali. Votre bâtiment s'appelait le Danube. À l'époque, vous veniez souvent à la maison. J'étais le petit frère, je vous espionnais de loin, vous parliez rarement avec moi. Mais je vous revois devant mon circuit de course automobile et votre seule préoccupation, c'était de me montrer comment tout faire dérailler. Vous aviez un vélo vert, un vélo de course, un vélo de garçon. Vous voliez des disques par sac entier aux halles du livre et un jour, vous m'avez offert... Station to Station de David Bowie. Parce que vous l'aviez en double. Grâce à vous, j'ai écouté Bowie à 9 ans. J'ai gardé ce disque. Entre-temps, je suis devenu romancier, sans atteindre votre niveau de notoriété. Ça ne s'est pas trop mal passé pour moi, et j'ai votre adresse mail depuis longtemps. Je l'avais récupérée parce que je voulais écrire pour vous un monologue pour le théâtre. Je n'ai jamais trouvé le courage de vous contacter. Bien à vous.
Garçon, garde tes excuses, garde ton monologue, garde tout. Il n'y a rien en toi qui m'intéresse. Si ça peut te rassurer, je suis encore plus furieuse contre le funeste imbécile qui m'a envoyé le lien vers ta déclaration, comme si je devais être tenue au courant de chaque insulte dont je fais l'objet. Je me contrefous de ta vie médiocre. Je me contrefous de l'ensemble de ton œuvre. Je me fous de tout te concernant, sauf de ta sœur. Bien sûr que je me souviens de Corinne. Je n'avais pas repensé à elle depuis des années, mais dès que j'ai lu son prénom, c'est revenu comme si j'ouvrais un tiroir. On jouait aux cartes sur une luge qui servait de table basse dans sa chambre. On ouvrait les volets et on fumait des clopes que je volais à ma mère. Dans ta famille, vous aviez un micro-ondes avant tout le monde et on y faisait fondre du fromage qu'on étalait sur des biscottes. Je me souviens aussi être allée la voir dans les Vosges. Elle travaillait comme mono dans un genre de chalet avec des chevaux. La première fois que je suis entrée dans un bar, c'était avec elle. On a joué au flipper en prenant un air dégagé, comme si on avait fait ça toute notre vie. Corinne avait une moto. Vu l'âge qu'on avait, ça devait être une moto billette améliorée. Elle fumait des Dunhill rouges et buvait des demi-citrons. Chaque fois, elle parlait de l'Allemagne de l'Est et de la politique de Thatcher, des trucs dont personne ne se préoccupait à l'époque autour de moi. J'ai détesté Nancy, j'y repense rarement et j'ai aucune nostalgie de l'enfance. Ça m'a surprise que quelque chose me revienne de cette jeunesse et qui soit agréable. Dis à ta sœur que j'ai tapé son nom sur internet et que je n'ai rien trouvé. J'imagine qu'elle s'est mariée et qu'elle a changé de blase. Embrasse-la de ma part. Et en ce qui te concerne, crève.
More than a god in my dreams. It's wishful thinking. I sleep more than I need to. I drink more on the weekend. I eat all meat but fish. I keep my niggas with me. I see sharks in the water. I fiend for marijuana. I pray for all my homies. I'm lying, at least I try. I say that she's my only, but got you on my mind. Today I'm only human, but know that when I die, my grave gon' be my music. My soul is living through it, baby. Take care of the family that you came with. We made it this far and it's amazing. People drowning all around me, so I keep my squad around me. Keep it in the family that you came with. Keep enemies close, you know the basics. People crowded all around me. I guess it's all about me. Beginning checks in the mail, I don't know if you could tell. Stacking this bread on the shelf, stacking my bread on the shelf. I see you mad at yourself, I see them mad at themselves. I am crying for help, I am crying for help. Don't be mad if I switch up. My good taste got me this much. Too sweet for your taste buds. I seen you sleeping, hoe, wake up. They know what sauce was till we served it all for that tonka. Drizzled all on your lobster. Put shame to your roster. Me broke, girl, dream on. My team on, my reach strong. Need more what we own. My league always be one. Wait, boy, all season. Kobe's on my feet, bruh. Pay attention to me, bruh. Pay me my feet, bruh. You say answers to questions about me. It's in my music. You preach about revolution and dreams. I really do this. I lead by my example. I see fame as a nuisance. I don't take it for granted. But goddamn it, sometimes I can't stand it. Take care of the family that you came with. We made it this far. Amazing. People drowning all around me, so I keep my squad around me. Keep it in the family that you came with. Keep your haters close, you know the basics. People got their arms around me. That's 'cause it's all about me.
C'était All About Me de Sid.
Les Black Panthers, le lumpen prolétariat et l'automatisation. Les Black Panthers avaient une conception du lumpen prolétariat relativement différente de celle qu'on retrouve dans la tradition marxiste. Du point de vue marxiste, le lumpen prolétariat, en tant que classe de chômeurs, est essentiellement composé de travailleurs sans travail. C'est une armée de réserve qu'on entretient pour baisser les salaires et affaiblir le pouvoir des négociations des syndicats. Historiquement, les marxistes ont soutenu que les gens qui composent le lumpen prolétariat ne forment pas une classe révolutionnaire, car ils ne contrôlent pas les moyens de production et sont notoirement difficiles à organiser en raison de leur manque de liens sociaux, politiques et matériels. À l'inverse, les ouvriers d'usine étaient considérés comme propices à l'organisation politique car ils partagent des intérêts matériels, des conditions de travail similaires et une opposition commune au patron, ainsi qu'un espace physique où ils peuvent forger leur conscience de classe et coordonner leurs actions. Le lumpen prolétariat, en revanche, n'était qu'un agrégat d'individus déqualifiés qui vivent parfois en marge de l'économie légale. Lorsque Newton, Cleaver et Jackson théorisent la nouvelle économie capitaliste d'un point de vue post-marxiste, ils considèrent que la technologie finira tôt ou tard par subjuguer la majeure partie de l'humanité, à l'exception d'une petite classe de technocrates. Ils s'éloignent en cela considérablement de l'optimisme habituel du marxisme à l'égard de la technologie, où le capitalisme représente une étape inévitable sur la voie du communisme, du fait qu'il catalyse des innovations technologiques pouvant réduire le temps de travail humain nécessaire pour produire les biens matériels indispensables à la survie. C'est ainsi que les masses se libéreraient de corvées pénibles et du travail aliénant pour se cultiver et accéder à des activités plus satisfaisantes. Or, pour les Black Panthers, la classe ouvrière et le lumpen prolétariat ont une relation essentiellement négative à la technologie. Ces penseurs estimaient que les innovations technologiques rapides provoqueraient une lumpenisation des classes inférieures qui deviendrait irrémédiablement inemployable lorsque la production automatisée supplanterait le labeur humain. Pour le Black Panther Party, les Afro-Américains seraient les premiers à faire les frais de l'automatisation et de la désindustrialisation avant que cette condition ne se généralise au reste du prolétariat. Les Afro-Américains sont ce que certains pourraient appeler le canari dans la mine de charbon, car ils sont les premiers à subir les conséquences des restructurations politiques et économiques. Pour le Black Panther Party, la transformation technologique du procès de production exige de créer des stratégies et des tactiques politiques adaptées à la nouvelle situation. Puisqu'il prophétisait la dissolution finale de la classe ouvrière dans le lumpen prolétariat, il devait faire du lumpen prolétariat le nouveau point de départ de leur théorie politique, en élaborant des stratégies où celui-ci serait converti en classe révolutionnaire. Selon George Jackson, les Afro-Américains, ces anciens esclaves, formant la strate hyper-exploitée de la classe ouvrière, ont une vocation révolutionnaire car ils entretiennent une relation historiquement désespérée à la violence du système de production, qui les rend plus enclins à attaquer le système en entier à sa racine, alors que la classe ouvrière blanche prête davantage le flanc à la neutralisation du fait qu'elle n'a pas la même relation antagoniste à la production, qu'elle garde donc un certain intérêt au maintien du système et peut donc être soudoyée. Alors là, c'est une citation. Je répète que l'objectif, quand on veut détruire un pouvoir à support urbain et industriel, ainsi que ses forces de protection, c'est de créer le parfait désordre, de disloquer les opérations conjuguées qui leur permettent de produire et de distribuer des marchandises. C'est une chose que l'on peut mieux accomplir de l'intérieur du circuit d'opération que de l'extérieur. Vraiment, il n'y a pour un gouvernement en place aucune possibilité de l'emporter sur un ennemi résolu qui se trouve à l'intérieur. Or, pour saboter la production, les Black Panthers devaient simultanément construire une infrastructure autonome garantissant, comme ils le disaient, la survie pendant la Révolution. Un dernier aspect de la théorie du lumpen prolétariat de Jackson que je voudrais examiner est son analyse de la fonction des prisons et des prisonniers comme classe sociale. Au début des années 70, quand Jackson écrivait « Devant mes yeux, la mort », les Afro-Américains étaient en voie de devenir majoritaires dans les prisons des États-Unis. Dans une de ses lettres, il indiquait qu'il entamait sa 11e année dans le plus grand système pénitentiaire du monde. Mais ce n'est que bien après sa mort, dans les années 80 et 90, que le taux d'incarcération monta en flèche, marquant l'expansion d'un phénomène que nous connaissons désormais comme l'incarcération de masse. C'est pourquoi les observations de Jackson sur les prisons sont particulièrement clairvoyantes. Son analyse des prisons et de la classe des prisonniers comporte plusieurs niveaux. Le premier et le plus évident est devenu un argument courant chez les sociologues. L'incarcération n'a rien à voir avec le crime en tant que tel, elle est plutôt motivée par des forces politiques et économiques. Jackson notait qu'en 69, 87% de tous les crimes étaient des crimes d'atteinte à la propriété. Selon lui, la quantité disproportionnée de Noirs qui se retrouvaient en prison et le fait que chaque individu parmi les milliers et les milliers que j'ai rencontrés appartenait à la classe ouvrière ou au lumpen prolétariat n'avait rien d'une coïncidence. Jackson considérait la loi comme un artifice politique conçu spécialement pour contrôler les gens pauvres et désespérés comme moi. En somme, les lois bourgeoises protègent les rapports de propriété et non les relations sociales. Son analyse de la loi et du crime s'efforce de dénaturaliser ces deux concepts pour révéler comment l'appartenance de classe détermine la manière dont la loi est appliquée. Le crime, dit-il, découle tout simplement d'une énorme disproportion dans la distribution des richesses et des privilèges, un reflet de l'état présent des rapports de propriété. En d'autres termes, les conditions socio-économiques ne sont pas seulement la cause des crimes, elles déterminent quelles activités sont considérées comme criminelles. En plus d'appliquer une analyse de classe à la prison, Jackson lui attribue une fonction proprement politique. Elle est en effet l'une des principales institutions répressives de ce qu'il appelle l'État capitaliste totalitaire, dont l'objectif est de décourager et interdire certaines activités. Autrement dit, la prison est un instrument de répression politique. Tout au long de leur histoire, les États-Unis ont réprimé, grâce à leur prison, tous les efforts qui s'organisaient pour défier sa légitimité, depuis qu'ils s'essayèrent à briser l'association de bienfaisance ouvrière jusqu'au jour où ils interdirent le Parti communiste et jusqu'à la tentative de détruire le Black Panther Party. Selon Jackson, toutes les actions qui menacent l'ordre social capitaliste déclenchent automatiquement l'appareil répressif. C'est la raison pour laquelle il tient la guerre civile comme seul moyen d'accomplir la révolution totale. C'est un extrait de l'introduction, un bouquin écrit par Jackie Wong qui s'appelle Le capitalisme carcéral.
Et maintenant, on va écouter une autre très belle piste qu'on a reçue. Je vous laisse la découvrir.
En hommage au joli hasard de la vie, je vais vous lire un extrait de « Corps vivante » de Julie Delporte. J'ai découvert cette autrice au gré d'une flânerie dans une librairie, avec son précédent album qui s'appelle « Moi aussi, j'aurais voulu l'emporter ». J'ai offert ce livre à une personne que j'aime profondément. Et cette personne m'a offert son nouveau livre juste après que j'ai accepté de faire une lecture pour le prochain épisode de L'éclat des noctules. Alors, j'ai cueilli l'aubaine au vol pour vous partager ma rencontre avec l'univers de cette autrice. J'aime son écriture sobre et simple, la générosité de sa sincérité, et j'en admire le courage. Mais il va vous manquer lors de l'écoute une part essentielle de ses livres. Les dessins qui, comme un herbier de souvenirs, accompagnent chaque page du récit. Pour ne pas interrompre la lecture, je vais tenter de vous les évoquer tout d'abord. Mais je vous conseille surtout de trouver le livre pour mieux vous imprégner de la douceur colorée de ces lignes crayonnées. Page 143. Une main tient la photo d'une silhouette en bord de mer qui observe l'horizon coloré de bleu, rose, violet. Pages 144, 45, 46 et 47. Des végétaux organiques, fleurs, feuilles, algues, fougères, cailloux, graines ou peut-être encore autre chose se mélangent et se déclinent en compositions variées. Pages 153, 155, 157. Une explosion de traits et courbes couleur chair ou flamme ou branche, qui sortent peut-être d'une vulve. Page 158-159. la couverture du livre Po de Dorothy Allison et une personne qui lit ce livre. Page 160. Comme des images de films en bleu et rose, avec en fond un cœur et le titre Desert Heart, une silhouette d'une femme en chemise courte et short en jean, et deux visages de femmes qui s'embrassent. Puis deux visages et demi-tête bêche, avec en sous-titre Go Fish. Page 162. Jamie, dans Certain Woman. Et cette même femme, dans un paysage avec un cheval et un renard. Page 165. Frida Kahlo de profil et une statue. Page 167. Une reproduction d'un tableau de Catherine Hopie. Une silhouette aux cheveux courts, de dos, un anneau à chaque oreille et un tatouage dans le cou, dans la nuque, marqué Dyke. On commence la lecture. En thérapie, on m'a proposé l'exercice de consoler l'enfant que j'avais été. C'est très douloureux. L'enfant a tellement honte que je ne peux même pas l'approcher. Elle n'est digne de l'amour de personne. Peut-être est-ce du creux de cette honte que vient ma sensation d'être déconnectée des autres. Avant, je pensais qu'on disait des victimes d'inceste qu'elles étaient des survivantes parce qu'elles n'en étaient pas mortes. Je ne m'identifiais pas à ce mot « survivante ». Je le trouvais trop fort. Je n'avais pas l'impression d'être passée près de la mort. À présent, je le comprends différemment. Les autres ne sont pas que l'amour et la reconnaissance. Ils sont, comme pour tous les mammifères, la chaleur et la nourriture. La survie. Parce qu'elle était persuadée d'être mauvaise, d'avoir commis le plus terrible, l'enfant que j'étais aurait tout fait pour se faire accepter des autres, pour ne pas être rejetée. Elle n'a pas appris ce qu'elle souhaitait de l'amour, ni ce qu'était une limite. Elle est entrée en survivance. Mon histoire de lesbienne tardive résume bien qui je suis. Je n'ai été qu'adaptation aux autres, au monde hétérosexuel, au monde sexuel. J'envie celles qui savaient qu'elles aimaient les femmes avant même de comprendre la sexualité. Comme si elles étaient de vraies lesbiennes. Moi qui normalement n'aime pas les vraies choses. Les vraies femmes, les vrais hommes, les vrais artistes. Quand j'ai dit à mon amie Sophie que je pensais aimer les femmes, elle m'a demandé quelle sorte de femme. Et j'ai répondu, toutes les sortes. Elle a ri en disant qu'alors j'étais une vraie. J'étais heureuse, j'avais besoin de tous les points lesbiens qu'on pourrait me donner. Ces dyke pants qu'on gagne en faisant du vélo d'hiver ou en portant des vieilles vestes en cuir. Avec le recul, je remarque dans cette anecdote notre obsession pour l'authenticité. Peut-être est-ce une manière de nous confirmer que nous existons vraiment, malgré l'effacement historique et l'invisibilité qui perdure. Un jour, j'aimerais également pouvoir revendiquer la lesbienne bancale que je suis.
C'est un cadeau quand tu me touches. Lorsqu'on m'a demandé de faire une intervention sur l'histoire des femmes auprès des détenues de la prison pour femmes de Kingston dans l'Ontario, au Canada, j'ai voulu offrir un cadeau aux lesbiennes de la prison. Alors j'ai écrit ce texte, je l'ai imprimé sous forme d'affichette à distribuer. Je voulais honorer le sexe lesbien en prison, honorer les femmes qui se désirent les unes les autres, non pas en raison de l'indisponibilité des hommes, mais parce qu'elles étaient lesbiennes. Malheureusement, dès que la personne en charge du groupe qui m'avait invité en prison a annoncé aux femmes réunies et à leurs enseignants-enseignantes que j'allais parler d'histoire lesbienne, la direction de l'équipe pédagogique a décrété que je n'étais pas une intervenante appropriée pour les 200 femmes présentes et les a fait sortir de la salle. Une dizaine de femmes ont réussi à rester et ce sont elles qui ont distribué les affichettes aux femmes incarcérées qui en voulaient. La vie m'a appris que le contact physique ne doit jamais être pris pour acquis, qu'une femme qui me caresse les seins ou qui m'écarte les jambes n'est jamais chose banale, que sa langue qui me prend ou ses doigts qui trouvent leur chemin jusqu'à moi ne sont pas des actes mystérieux à reléguer dans la pénombre, que toutes ces choses, les enlacements, les étreintes, les gémissements, les expressions du désir, sont des actes de lumière. Je m'émerveille encore en revoyant ta tête entre mes jambes, ton corps dans toute sa longueur et les années qui te composent, cherchant mon plaisir. Comment fais-tu dans un monde comme celui-ci, où les armes et les gouvernements anéantissent chaque jour la tendresse, pour trouver ton chemin jusqu'à ce petit endroit caché de mon corps de femme? Mais tu y parviens, tu es résolue, et tu sais ce que tu fais. Tu déclenches une faim gargantuesque. Comment pourrais-je jamais m'habituer à la beauté de ta joue contre mon sein, ou à la force protectrice avec laquelle tu me retournes? Comment pourrais-je jamais trouver ordinaire ton envie de caresser les zones les plus étroites de mon corps? Ta façon de prendre le temps de me calmer, puis de m'aider à désirer ce que je ne peux imaginer, ou ta façon de m'agripper, alors que je t'ai donné du plaisir, de me tirer le long de ton corps, jusqu'en haut, tes doigts qui nettoient tendrement mes lèvres brillantes de ta saveur, ou ta façon de placer ton épaule comme un oreiller pour m'apaiser après l'orgasme. Jamais je ne prendrai pour acquis en ce monde la générosité avec laquelle tu m'explores, la façon dont tu as écouté mon corps et découvert ce que tu pouvais faire et comment tu t'en sers pour me surprendre quand je viens au lit, quand je tends la main vers toi et que je sens les lanières de cuir autour de ta taille. Tu n'annonces jamais rien, tu te contentes de sourire et de faire. Jamais je ne prendrai pour acquis le miracle de ton envie de me réconforter, les trajets que tu fais pour me rejoindre tard le soir, apparaissant à ma porte, en jean et t-shirt, émergeant comme le matin. Quand tu te tiens à côté de moi, seins nus, vêtu seulement de ton blouson de cuir et de tes chaussettes blanches, ton petit ventre qui pousse vers l'avant, tes yeux qui brillent devant la profondeur de ma réponse. Comment tout s'arrête en cet instant? Comment toutes les pertes de temps, les peurs de la nuit succombent à tes pieds? Ou toutes les fois où tu m'as serré contre ton cœur en me disant que ce n'était pas grave de pleurer tout le temps? La seule honte que je ressens aujourd'hui, après tant d'années de contact physique avec les femmes, c'est de ne jamais dire suffisamment merci. La vie m'a appris que le contact physique ne doit jamais être pris pour acquis, qu'une femme qui me caresse les seins ou qui m'écarte les jambes n'est jamais chose banale.
Eh bien, merci Alice pour ce texte, de, je le rappelle, de Joanne Nessel, dans un livre qui s'appelle Femme. Et comme il nous reste une petite minute d'antenne avant de passer à la dernière musique, j'ai le temps de vous lire un tout petit extrait de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Ève. Aujourd'hui, le fleuve gronde et charrie de la boue. Les flots débordent et lèchent les rives. Les rochers blancs se teintent d'une eau brune et épaisse. J'ai mis une soupe à cuire pour l'enfant. Je tourne la cuillère dans le liquide brûlant en regardant le ciel débordé par la fenêtre. Autrefois, la nuit, par cette même découpe qui donne sur le fleuve, j'imaginais en bas la silhouette de Louve, et je la cherche encore. Contre toute logique, mon cœur se met à battre un peu plus fort chaque fois que mon regard s'évade par la fenêtre. Il y avait ce poème qu'on lisait à l'école. D'abord, ils viendront pour ceux qui prient un autre Dieu. Puis ils viendront pour les sans-toi, les pauvres et les miséreux. Nous n'étions jamais sur la liste. J'entendais ce poème comme une réminiscence de guerres passées, de guerres d'ailleurs, comme celle qu'avait fui Francesca. Son âge et ses yeux obliques, son parler marqué des accents de sa langue maternelle, tout cela contribuait à renvoyer dans un autre espace-temps cette idée de la guerre. Le grand génie de notre époque et de ceux qui la gouvernent, c'est de nous avoir fait croire que nous vivions en paix, quand ils lâchaient des bombes sur d'autres continents. Quand des bombes artisanales ont explosé ici, la surprise était générale. Comment? On nous voulait du mal? Mais qu'avions-nous donc fait pour mériter cela? Les autres ont d'abord accusé ceux qui fuyaient les bombes qu'on avait envoyées dans leur pays natal. Ils campaient entre deux zones en friche, par-delà la frontière, au bord de la forêt. Les gardes-frontières devenaient plus nombreux, leur veille s'intensifiait. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Un printemps de plus qui commence dans un monde qui est pas simple, mais qui est beau par endroits. Un printemps de plus qui commence où faut pas baisser les bras. Un printemps de plus qui commence du mieux qu'on peut. Et voilà. C'est parti pour un printemps de plus. Bonne jolie mois de mars à vous tous et toutes. Et au mois prochain pour une émission sur, je vous le donne en mille, les fleurs. Ça va envoyer du lourd. Et maintenant, on va écouter Misketa, Una donna che canta.
C'era Lorenzo, un musicista. Non abbiamo mai scopato, lui mi scopava in pista. Poi è arrivata Belan, voleva fare successo. Siamo solo io e te, dice, è anche un casting director. C'era uno Stefano, faceva il designer. Ma il suo amico Domenico era un po' troppo in mezzo alle palle. Sì, non sono una santa, ma una donna che conta. Una donna che uno, due, una donna che conta. Una bionda che tre, quattro, una bionda che abbonda. Una donna che uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Una bionda che tre, quattro, tre, quattro, tre, quattro, tre, quattro. Un saluto speciale a tutti quelli a cui ho dato il mio cuore. Qualcosina di più. Miguel, Donald, Silvio, Amanda, Antonio, Lele, Donatello, ci vedo, Ezio, Enzino, Caro, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu, mio, ci so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, Beck, prima o poi ci ribecchiamo, ragazza. Brunda, Emilia, Magda, Roberto. Vi devo ancora 40 euro, fratello, quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. Mio malgrado, l'infinito, mi tormenta. Vabbò, ciao, va?